Psaume 117. Ça va être long à lire le passage, là. Psaume 117, il y a quelque chose en commun avec Psaume 119. Vous savez, c'est quoi?
119.
Le plus. 119, c'est le plus long.
L'autre, c'est le plus court.
C'est le plus court, exactement. Les deux, c'est les le plus.
Non,
c'est
le plus. Les deux, c'est en plein milieu de la Bible.
Oui. Lequel?
118 est en plein milieu.
Ah! Ah, je savais pas ça.
Ouais, le verset 118. 8.
Fait que là, nos Bibles sont ouvertes en plein milieu. Comme ça, là.
Ah.
OK. Psaume 117. On va le lire. Je vais vous partager une couple d'affaires là-dessus. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Ah Seigneur, on veut te louer et on veut aussi voir le grand privilège qu'on a de te connaître. Et merci que ce n'est pas une idée que tu as eue juste dans le Nouveau Testament avec les apôtres puis à partir de Paul. Ça a commencé dès le début, Seigneur. Et on te loue, Seigneur, que tu t'es fait connaître. Tu es la lumière des nations. Ouvre nos yeux sur cette belle vérité, Seigneur, et que ça fasse ça aussi son chemin dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Voyez-vous, l'Ancien Testament... Des fois, on voit l'Ancien Testament, c'est pour les Juifs. C'était pour cette petite gang-là, le club sélect en Israël. Mais le psaume 117, ça nous montre que non. Le but de Dieu, oui, avait désigné une nation. Il a désigné un homme, Abraham. Puis ensuite, bon, l'époque des patriarches a donné une nation. Et la nation d'Israël, c'était dans le but d'être la lumière des nations. C'était simplement d'être le clairon qui proclame la vérité de Dieu aux nations. C'est pour ça que ça dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations ». C'est dans l'Ancien Testament, ça. Okay? Donc, on voit ici « Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous ». Donc, mais oui, sa bonté pour les nations. C'est pas comme si Dieu, dans l'Ancien Testament, était contre les nations puis était méchant contre eux autres. Non, sa fidélité, elle dure à toujours même envers les nations. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament, c'est, oui, le jugement de Dieu contre les nations. On voit aussi beaucoup le jugement de Dieu contre son propre peuple. Mais il ne faut pas qu'on perde de vue la bénédiction du fait que Dieu avait de la bonté. Bien, il a toujours eu de la bonté, de la fidélité envers toutes les nations de ce monde pour leur se faire connaître à eux. Et c'est ça le plus grand sujet de joie. Ça dit « Louez l'Éternel, vous toutes les nations ». Célébrez-le, vous tous les peuples. Et donc, ce que je veux qu'on regarde avec... c'est vraiment pas compliqué comme message. Sur ce thème de la réjouissance, hein, un temps de l'année où est-ce qu'on dit, hein, c'est le temps des fêtes, c'est un temps de réjouissance, on voit du monde, puis tout ça. Ben, le Seigneur, à travers le psaume 117, nous montre comment il est le grand sujet de réjouissance. Ça dit « louer, célébrer », puis ça donne la raison, verset 2, « car sa bonté pour nous est grande, sa fidélité dure à toujours ». Et quand on comprend ce contexte de bonté, de fidélité envers toute sa création, et plus précisément les peuples, qui dans le fond deviennent une récolte vivante, à sa gloire, des âmes qui sont sauvées, bien, on comprend comment c'est vraiment une vérité précieuse qu'on est en train de considérer. Puis je veux simplement qu'on le fasse en regardant trois raisons de se réjouir du plan rédempteur de Dieu. Parce que ce qu'on voit ici, c'est le plan rédempteur de Dieu. Puis aussi, on parlait de ça pendant le dîner. Vous savez que s'il y a quelqu'un qui se dirait « Dieu, la grâce, puis tout ça, ça a commencé quand? » Ça commence que ça a commencé aussitôt que le péché est rentré dans le monde. Quand le péché est rentré dans le monde, Dieu a déjà promis la délivrance. Dieu a déjà prêché l'Évangile. Pourquoi? Parce que lorsque le péché est rentré, il a dit à la femme, il a dit « De ta postérité va naître celui qui va écraser la tête du serpent. » Oui, le serpent va blesser le talon. Ça, c'est une image de la croix. C'est bon, c'est tout. Les théologiens appellent ça. Comment appellent ça les théologiens?
Proto-évangile.
Le proto-évangile. C'est-à-dire, l'Évangile dans sa forme embryonnaire, dans sa forme la plus simple. C'est-à-dire, il y a toute la notion de naissance du Sauveur, donc l'incarnation et sa mission de délivrance. hein, sur, c'est ça, le serpent qui venait, tu sais, d'être l'instrument pour faire rentrer le mal, puis tout ça, donc la victoire de Christ. Et donc, dès le départ, la grâce de Dieu était là. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'Israël, d'Abraham et tout ça, là. Il y avait simplement la race humaine, en fait, les deux premiers humains qui ont eu les deux premiers hommes. Puis déjà, ça allait pas très bien parce que dès le départ, la première famille, il y a déjà eu un meurtre. Il y a quelque chose avec la Bible qui est d'un réalisme presque cruel. Tu sais, des fois, on dit, on va embellir ça un peu, là. Ça fait un peu rough, là. Mais non, la première famille, ça commence déjà, pas point qu'avec comme une chicane de famille, un meurtre. Je veux dire, c'est ça. Moi, je pense souvent à l'expression en anglais, on va pas mettre du sucre par-dessus. We're not gonna sugarcoat it. La Bible, c'est pas, ils ont pas voulu embellir. Donc, trois raisons de se réjouir du plan rédempteur. D'abord, parce que la condamnation de la loi a pris fin, parce que Jésus l'a subi. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Pourquoi? Parce que, bon, c'était pas accompli à l'époque où est-ce que le psaume était écrit, mais le problème, c'est pour ça qu'on voit dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup dans l'Ancien Testament le jugement de Dieu contre les nations, hein, que ce soit ceux dans la terre promise, que ce soit, bon, les Babyloniens qui viennent, qui sont méchants, puis finalement qui finissent par avoir aussi la rétribution pour ce qu'ils ont fait, puis les Mèdes, les Grecs, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, mais tout ça, c'est à comprendre aussi à la lumière de Christ qui est venu pour mettre fin à cette condamnation-là. L'Ancien Testament, il y a, je crois, de façon volontaire, Dieu qui met, puis là, je vais faire attention à ce que je dis, il y a une certaine laideur qu'on voit dans l'Ancien Testament. Pas de l'Ancien Testament, lui, mais tu sais, c'est pas très beau, là, des histoires qui se mettent gênant à lire, ou tu sais, ah, c'est donc bien pas beau, cette histoire-là, tu sais, ça va donc bien mal, puis ils sont donc bien méchants, eux autres, puis hein, ils sont donc bien endurcis, ça vire donc bien pas bien, puis ben Dieu, ça fait partie de sa révélation, justement, pour montrer que c'était la condamnation, c'était ce qui venait de par le fait d'avoir enfreint la loi de Dieu. Et là-dessus, je veux vous dire un point important, la condamnation de la loi. On parle un petit peu de la loi. OK, bon, c'est Jésus-Christ qui l'a subi. OK, pourquoi la loi a-t-elle été donnée? S'il vous plaît, vous avez besoin de...
Pour démontrer le péché.
Pour démontrer le péché. Continuez, il y a plus qu'un... Oui?
Pour que l'offense abonde.
Pour que l'offense abonde, oui. Oui. Pour qu'on voit qu'on n'est pas capable de se sauver nous-mêmes, pour qu'on sente notre misère, que l'offense abonde, OK? Sous question, pour qui a-t-elle été donnée, cette loi?
Moïse.
Non, pas par qui, pour qui?
Pour l'Israël, pour les peuples de Dieu.
Oui, Israël qui l'avait demandé, OK? Parce que... Dans le fond, c'est comme si, c'est ça, Dieu avait déjà été déjà en train d'élire son peuple, là, il a donné la loi qui est la révélation de son caractère, puis tout ça. Mais, oui?
Pour les pécheurs.
Ah, c'est ça, dans 1 Timothée, ça nous dit que la loi n'est pas pour les justes, c'est pour les injustes. Mm-hmm.
Ouais.
Pourquoi? Parce qu'un injuste qui ne connaît pas le Seigneur, il va se penser bon. Ben, la loi est pour qu'il voit qu'il n'est pas bon. C'est pour ça que c'est pas beau l'Ancien Testament. Il n'y en a pas de bon, là. C'est la démonstration qu'il n'y a pas de juste, qu'il n'y a pas même un seul. Puis Jésus l'a subi à notre place. Et là, je vais amener un point important. Pourquoi qu'on penserait comme à l'ancienne lorsque toute chose est devenue nouvelle en Jésus-Christ? Si la loi est pour les injustes, qu'est-ce que nous, on a à faire avec? Je vous pose la question. On n'est pas... Là, ça, il y a une espèce de fine ligne là, du monde chrétien où est-ce qu'à un moment donné, ça peut partir d'un bord ou partir de l'autre. La loi n'est pas pour nous autres, mais on n'est pas antinomien, mais on n'essaye pas de la garder non plus. C'est-à-dire, la loi n'est pas pour nous autres. Pourquoi? Parce que quand on est un enfant de Dieu, on est libéré, on est, pour prendre les mots de la Bible, on est dégagé de la loi. On n'en a pas besoin parce qu'on a reconnu notre état devant Dieu. On sait qu'elle est bonne, on prend plaisir, on dit « Ben oui, c'est vrai, je suis pécheur, c'est vrai que je tombe à court, mais j'en ai pas besoin pour son rôle de condamnation parce que je ne suis plus condamné, il n'y a plus de condamnation à Jésus-Christ. » OK? Pourquoi? Parce que Christ a pris ma place. Non seulement Christ est mort pour moi, mais aussi je suis mort avec lui, je suis mort au péché, je suis mort à la loi. La loi n'est plus cette autorité qui me regarde et qui me pointe du doigt en disant « t'es coupable ». C'est pour ça qu'elle a plus ce rôle dans ma vie, parce que maintenant c'est Dieu qui me regarde et dit « t'es aimé, t'es accepté, t'es reçu, t'es pardonné, t'es... » Tout le kit, là. Voyez-vous que c'est pour ça que ça prend un bout de temps à accepter. Puis là, je veux juste amener une illustration par rapport à ça. Écoutez bien, ça peut arriver des fois que dans notre raisonnement humain, on pense quelque chose qui va ressembler à ça. Je donne quelque chose d'hypothétique, mais Dieu qui nous dit « Je t'ai sauvé, t'es mon enfant, je t'aime, puis je t'aime d'un amour éternel, pourquoi je te conserve ma bonté? Hey, »« Oui, moi aussi, Seigneur, je t'aime. » C'est tellement merveilleux d'être un enfant de Dieu, mais peux-tu me dire quoi faire, là, tu sais? J'aimerais ça, moi, tu sais, vu que j'aime, j'aimerais ça savoir quoi faire, là, tu sais, pour te montrer mon amour. Puis j'aimerais ça, tu sais, une liste ou une petite formule ou quelque chose, là. Ben, ça va à l'encontre même du fondement d'amour de notre salut. C'est comme, tu sais, je vais vous donner un exemple qui est bien niaiseux. Deux personnes, ça fait longtemps qu'elles ne se sont pas vues. OK, disons, ma femme puis moi. des amoureux fous. Que là, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vus. Puis là, ma femme, elle va me chercher à l'aéroport. Fait que je revenais d'un gros voyage d'affaires. J'étais un gros businessman, ça fait pas mal. Fait que, puis là, j'ai dit, là, je vois ma femme, va, je donne un bec. Je pense que je vais faire une colle. Puis là, je me fais une liste. OK, non, je vois ma femme, là, tu sais, je donne un bec, je fais une colle, puis là. OK, puis là, j'arrive. Ah, bonjour, chérie. Puis là, OK, premier sur la liste. Puis, est-ce que j'aurais besoin de faire ça? Non, parce que j'ai une motivation plus grande. Je l'aime. C'est quoi? La première fois que j'ai le goût de faire quand je la vois, j'ai le goût de la prendre dans mes bras, puis de l'embrasser, de donner un bec, puis de dire, ah, je suis vraiment content, puis ça. T'as pas besoin d'avoir la liste parce que t'as la motivation qui est plus grande. Ben, c'est ça notre salut en Jésus-Christ. T'as plus besoin d'une liste qui te dit tout de quoi faire. C'est toi-même qui es motivé par une chose. Tu l'aimes, Dieu. Puis, en fait, j'irais même jusqu'à dire, l'esprit de la liste de la loi enlève la louange. Pourquoi? Parce que là, ça a un sens d'obligation, il n'y a plus le sens de simplement la spontanéité. Ah ben là, il faut que je chante à Dieu, parce que c'est ça qu'un chrétien, ça fait. Non, je veux chanter. Tu sais, c'est pas le « je dois », c'est « je veux ». C'est une grande, grande, grande différence. Puis ça, c'est justement, écoutez bien, je parlais de condamnation de la loi, ça vient tout de ma perception de... Est-ce que je vois Dieu comme quelqu'un qui me regarde du ciel, là, avec sa grosse barbe, puis son doigt prêt, là, pouf, à me pointer? « Hey, t'as fait ça, puis là, ça marche pas. » Ah, là, il y a ça. Si c'est ma conception de Dieu comme étant celui qui me regarde à travers le regard de la loi, ben là, je vais être sur le gros nerf. Mais si je vois celui qui m'a accepté déjà, dans le bien-aimé, qui a déjà payé tous mes péchés, qui m'a déjà complètement reçu en Jésus-Christ, ben là, moi, je réponds à tant d'amour. Tu sais, c'est comme, waouh, Dieu, c'est vraiment trop beau pour être vrai, mais c'est vrai. Fait que là, j'ai plus la main. Je vois plus comme quelqu'un qui est là comme une menace. Je vois quelqu'un qui m'aime, puis à qui je veux plaire. Il n'y a pas besoin de me menacer. Quelqu'un de même veut dire, t'as juste le goût d'y plaire. Puis c'est vrai aussi, c'est ça, tu sais, dans une famille, dans un couple, je parlais d'un couple, mais aussi dans une famille, veut dire, on s'aime, puis c'est pas comme, tu sais, on élève des enfants, hey, là, va falloir que je les nourrisse, là, puis ah, OK, je vais leur donner le bain parce qu'un parent, c'est ça que ça fait. Ben non, t'es aime, puis là, puis quand ils sont malades, t'en prends soin, puis n'est-ce pas, c'est ce qu'on fait, on est des parents, puis on les aime, nos enfants. Ben c'est ça, la relation avec Dieu. Donc, vraiment, ça, c'est un point de départ, OK, qui amène de la réjouissance. C'est tout le bagage, le langage, la condamnation, c'est fini. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Jésus-Christ l'a subi, c'est fini. Et donc, on en est libéré. Deuxième sujet de réjouissance, c'est que le chemin étroit peut être emprunté parce que Jésus l'a ouvert. Tu sais, ça dit, louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa fidélité dure à toujours. Quand on connaît Dieu, tu sais, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. on rentre sur ce chemin de vérité, ce chemin vivant qu'est Jésus-Christ, et on marche enfin dans la vraie vie qui est la seule qui vaut la peine d'être vécue. Pensez-y, à part les chrétiens, là, les chrétiens nés de nouveau, là, ceux qui sont régénérés par l'Esprit de Dieu, à part eux, sur terre, il n'y a pas personne qui vit la vraie vie. Avez-vous déjà arrêté là-dessus? Ils vivent une vie, ils existent, mais ils ne vivent pas la vraie vie. Parce que c'est quoi la vie? La vie, tu sais, on parle de la vie éternelle, on peut dire, ah, ça dure longtemps, hein? Bien, la vie éternelle, ce n'est pas juste une durée, c'est une qualité. C'est-à-dire que, quand je dis qu'on est ceux qui vivent la vraie vie, Dieu, là, c'est lui le créateur. Puis il a intentionné, il intended. Quand il nous a créé, il nous a créé avec l'intention qu'on vive d'une certaine manière. Bon, mais on a laissé cette intention originelle, OK, avec le péché. Puis là, quand on est sauvé, on revient à ça. Ça, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si c'est la seule vraie vie qui est vraiment la vraie vie, puis que le reste, c'est de la vanité, c'est exister, mais sans qu'il y ait vraiment de but. Pourquoi? Parce que une vie dont Dieu n'est pas le centre, dont Dieu n'est pas la raison d'être, ça vaut... Tu sais, si, par exemple, je me mets au centre de ma vie. Ça s'épuise longtemps, ça s'épuise rapidement comme raison d'être, ça. Parce que là, tu sais, je vais devenir égocentrique, je pile ses pieds à tout le monde, je deviens quelqu'un de très désagréable à vivre, puis je deviens moi-même très déçu de moi-même. Puis si je veux plaire aux autres, ben là, les autres, ça devient des maîtres cruels parce que je pourrais jamais leur plaire complètement. Si je vis pour mon travail, tu sais, comprenez-vous? Qu'on vit pour n'importe quoi, en dehors de Dieu, ou pour le dire autrement, en dehors de notre but créateur, ou tu sais, pour la gloire de Dieu, ben ça sert à rien. C'est ça l'idée de chemin étroit. C'est le chemin qui est celui que Dieu a désigné. Parce que tu sais, dans le monde, il y a 36 chemins, et large, et la voie qui mène à la perdition, mais le chemin de Dieu, il est étroit, c'est celui de notre vie qu'on a en Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa bonté et sa fidélité, il nous a amenés sur ce chemin. Pensons à ça, le concept de chemin, c'est quand même pas rien parce que Jésus a dit « je suis ». Puis, tu sais, il y a trois choses. Le chemin, la vérité et la vie. Le premier, c'est le chemin. Vous avez déjà arrêté que quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », ça amène trois des choses les plus fondamentales de l'existence humaine. Parce que quand Jésus dit le chemin, là, veut dire, on sait pas où qu'on s'en va, puis ça, puis si t'as pas de but dans la vie où ce que tu vas, ben Jésus, il est le but de la vie. Il est, bon, ça c'est en partant. La vérité, hein, n'est-ce pas, on vit une époque, là, pourquoi tout le monde est mêlé, puis qu'il y a tellement de monde désespéré parce que, bon, il n'y a plus vraiment de vérité. Puis là, ça, j'en reviens pas qu'on l'entend de plus en plus, ben j'en reviens pas. Ah ben ça, c'est ta vérité. Puis là, les gens, maintenant, c'est rendu l'accepter ta vérité. Mais savez-vous quoi? Ça, là, en passant, pour ceux qui ont encore du raisonnement logique, là, une vérité, ça n'a pas un propriétaire. C'est la vérité. C'est pas comme ta vérité, ma vérité, non. C'est comme ta compréhension, ma compréhension, peut-être. OK, ça peut varier. Mais ta vérité, ma vérité, là, je veux dire, la vérité, c'est la vérité. C'est pas un qui se l'approprie, puis l'autre, il en a un autre, là. Non, c'est la vérité, tu sais. Ça, parce que c'est en lien. La vérité, c'est l'acquiescement du réel, de ce qui est la réalité. Vous voyez, la réalité, Dieu est l'ultime réalité. Fait que, tu sais, il n'y a pas des négociables puis des variantes là-dedans. Là. C'est ça, puis c'est toi qui t'arranges avec. Tu sais, c'est pas la vérité qui s'arrange avec nous. C'est nous qui s'arrange avec la vérité. OK? Donc, le besoin de direction, de savoir ce qu'on s'en va, un but dans la vie. Le besoin de, tu sais, c'est ça, d'absolu, puis de la vérité, puis la vie. Tu sais? Jésus, c'est dans l'essence de ce que Jésus est, le chemin, la vérité, puis la vie, c'est ça. Là. La vie comme elle était désignée dès le départ par Dieu, Jésus, il est tout ça. Mais ça commence par le chemin. Et donc, Jésus est le but de notre vie. Puis quand on trouve le but de même, là, on marche dans la vérité. Là, on est aussi dans la vraie vie. Donc, c'est un sujet de se réjouir. On a trouvé tout ce qui est le plus fondamental à l'existence humaine. Puis en passant, là, savez-vous quoi? Tu sais, je suis allé dans le foyer de personnes âgées, je vais à Saint-Casimir, puis souvent quand je partage l'évangile à des gens, je le partage un peu sous cet angle-là. Dans le sens que, hey, ta vie, là, elle marche pas. Puis ta vie, elle peut pas marcher parce qu'elle est en dehors de ce qu'elle est supposée d'être. Tu sais, ils vont prendre l'évangile, là, qui est Jésus, et le seul qui sauve, puis tu sais, un peu comme un plan. Mais à l'époque où est-ce qu'on est, je pense qu'il faut qu'on amène les gens, des fois, à réfléchir sous un autre angle. Parce que les gens regardent, puis tu sais, ça tourne pas rond, dans le monde, ça tourne pas rond dans ma vie. Ben oui, c'est parce que t'es sorti du plan original. Ben moi, je te réinvite dans le plan original. Je vais te montrer celui, là, qui nous ramène au plan idéal, parfait. Le plan de Dieu, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen?
Amen.
Maintenant, dernier point à ce sujet. Pas à ce sujet, mais au sujet de la réjouissance sur « Louez l'Éternel, vous toutes les nations ». Premier sujet de se réjouir, c'est que, voyons, je l'ai perdu. La condamnation a pris fin, le chemin étroit peut être emprunté et finalement, le cantique nouveau peut être chanté parce que Jésus nous l'a donné. Le cantique nouveau peut être chanté parce que Jésus nous l'a donné. Vous savez, des fois on voit ça dans le Nouveau Testament, mais ici c'est clair. Des fois, on dit dans le Nouveau Testament, ça, c'était probablement un cantique de l'Église primitive, comme dans Éphésiens 1, par exemple, dans 1 Timothée au chapitre 3, verset 16. Ah, selon ce que c'est de la structure, probablement que les chrétiens chantaient ça, comme un cantique, ou bon, on sait que les chrétiens aussi chantaient des psaumes. Mais ici, on sait, les psaumes étaient chantés. Donc ça, il y a du monde qui ont chanté ça. Mais mieux que ça encore, la Bible nous dit que lorsqu'on est sauvé, puis est-ce que vous le connaissez, le psaume 40? C'est un beau psaume parce que, écoutez bien, on voit l'effet d'avoir un cantique nouveau dans le cœur. Ça dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu, beaucoup l'ont vu. » Et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. On parlait de méthode d'évangélisation. Savez-vous quoi que... Puis encore, je pense que de nos jours, une façon tellement puissante d'avoir une influence pour le Seigneur, là, c'est la joie de l'Éternel. C'est simplement se réjouir en notre Dieu, se réjouir du trésor qu'on a trouvé. Et ça, c'est quelque chose que moi, le Seigneur, a beaucoup ouvert mes yeux par rapport à ma façon de m'approcher des inconvertis avec l'Évangile, au lieu de simplement amener la réponse à un plan ou une vérité à laquelle croire. Et c'est vrai que quand on amène l'Évangile, c'est une vérité à croire, puis c'est vrai qu'il y a quelque chose de systématique, tu sais, je veux dire, l'Évangile, là, c'est pas comme à gauche, à droite, non, il y a quelque chose de, tu sais, c'est Christ qui est mort, ça le dit là, dans 1 Corinthiens 15, là, Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité selon les Écritures. Mais en même temps, il y a quelque chose qui dépasse ça. Prêcher l'Évangile, c'est chanter la grâce de Dieu à ceux qui sont autour de nous. C'est partager ce cantique nouveau qu'il a mis dans nos cœurs. Pensez-y, là. Il y a quelque chose qui sonne différent de quelqu'un qui t'amène quelque chose comme s'il te vendait une balayeuse versus quelqu'un qui est en train tellement de se réjouir qu'il en chante de ce qu'il a trouvé. Et il dit, oh, t'as peur, là. C'est quelque chose à me dire, lui, là. Ça l'a pas où elle, là. Elle l'a tellement pas laissé indifférent qu'il en chante. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à mon Dieu. Plusieurs l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés. Donc, il y a vraiment quelque chose d'évangélistique dans le fait d'avoir un cantique nouveau dans notre bouche, on peut dire aussi, et dans notre cœur. Je pense qu'il y a un autre endroit, un autre psaume que ça parle du cantique nouveau puis ça dit dans le cœur. Mais là, je n'ai pas vérifié, je sais que c'est dans le psaume 40, là, mais bon. On peut chanter un cantique nouveau parce que Dieu nous l'a donné. Il y a quelque chose là-dessus qui est important à comprendre. La vie chrétienne n'est pas quelque chose qui part de nous ou qu'on initie de quelque façon que ce soit. La vie chrétienne, c'est recevoir, recevoir, recevoir. Dieu est l'initiateur. Nous, on est ceux qui reçoivent les diverses grâces de Dieu. Puis on les reçoit jamais juste pour nous-mêmes, pour qu'on s'assoie dessus, pour qu'on se pense bon, pour qu'on... On les reçoit pour en déborder, pour les partir. Puis c'est ça un chant. Il a mis dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait avec un chant? Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Puis qu'est-ce qu'on fait avec un chant quand on a ça? On le chante, on le ressort. Voyez-vous l'image? Il a mis quelque chose en moi qui ressort pour bénir les autres. Bon, des fois, c'est une bénédiction. Dans mon cas, je suis pas sûr quand je chante. C'est peut-être plus une épreuve de la foi, là, de m'écouter chanter, mais ben, ça fait partie des bénédictions, n'est-ce pas? Si c'est une épreuve de la foi, c'est bon. La première fois que je fausse, ce que je vais dire, c'est l'épreuve de ta foi, frère. Faut que tu m'endures chanter. Oh. Hey, non, mais je sais pas si je l'avais compté, celle-là. À ma année, à ma fête de 40 ans, t'as-tu 40 ans, Christina? Ma famille était venue. Puis on avait chanté. On avait chanté, c'était des gens, tu sais, des cantiques un peu évangélistiques, là, si vous saviez quel sauveur je possède, là. Tu sais, c'est un beau cantique, ça, tu sais, pour un, hey, si vous saviez quel sauveur je possède, tu sais. C'est un peu. Mais Camille, elle joue bien du piano, puis. En tout cas, ben. Puis Benjamin, vu qu'il a l'oreille pour jouer du violon, mais il chantait pas très fort, mais. Ma femme, puis moi, on chante mal, puis moi, je chante mal fort. Ou fort mal. Puis les deux. En fait, chante mal fort, fort mal. Puis là, ma mère, qui est d'une subtilité à peu près d'un 2 par 4, là, ou peut-être 2 par 3, là, mais pas plané, là, tu sais. Elle dit, Guillaume, chante faux. Tu sais, devant tout le monde, elle a comme jeté une douche d'eau froide. Tu dois... Guillaume, chante faux. Ah là, là, je suis devenu rouge comme une tomate, je me sentais assez mal. Notre beau concert évangélistique, il venait de manger une claque en pleine face, mes amis, là. Mais bon, heureusement, Dieu prend les choses folles, les choses faibles du monde pour confondre les salles. Puis là, ben, c'était un moment exactement le même. Je sais pas qui on a confondu, mais nous, on était. Moi, en tout cas, j'étais confondu. Mais non, mais c'était pas pire parce que la famille était venue, puis là, il était venu voir l'église ici, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que. C'est quoi, peut-être que j'ai faussé, puis tout ça. Mais c'était pas ça le plus important. C'était pas la performance. On chantait notre sauveur. On leur proclamait celui qu'on connaît. Puis, on avait dans le cœur ce cantique qu'on voulait leur partager. Il y a quand même quelque chose là-dedans. Peut-être penser à ça de cette manière-là. Au lieu de voir l'évangélisation comme une tâche, comme quelque chose à faire, là, qu'il faut faire, puis aussi qu'il faut faire de cette façon-là, on pourrait juste le voir comme... On chante le chant que le Seigneur a mis dans notre cœur. On chante dans la gloire de Dieu, on chante, puis c'est un chant qui a bien des strophes, là. Tu sais, parce qu'on peut chanter puis parler de l'incarnation, on peut parler de la crucifixion, on peut parler de la résurrection, mais tu sais, je pense que l'important, il faut que la vérité, les vérités essentielles de l'Évangile soient là, mais c'est important comment qu'on les communique. Est-ce qu'on les communique comme un chant, comme quelque chose qui déborde de nos cœurs? Je pense que c'est là vraiment qu'il y a une différence qui se joue. Donc, à la lumière de tout ça, ce psaume, un petit psaume pas long, avec le plus court. Louez de l'Éternel, vous toutes les nations. Célèbre-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Je pense que l'esprit de ce psaume-là, c'est vraiment de dire, regardez tout le monde autour, là. On a vraiment sujet de louer notre Dieu, de le célébrer, parce qu'il est bon, parce qu'il ne nous a pas oublié, parce qu'il ne nous a pas mis de côté. Et quel beau message d'espoir à donner au monde autour de nous autres. On vit dans un monde qui n'a plus grand espoir. Beaucoup de gens sont désespérés. Puis désespérés, oui, avec ce qu'on a vécu, mais aussi, qu'est-ce qui fait du sens de nos jours? Tu sais, le monde, on a tout rejeté, tout ce qui fait du sens, puis ce qui est de Dieu, les bases judéo-chrétiennes qu'on pouvait avoir. Si on peut être là, puis leur dire qu'il y a un sujet de se réjouir parce que Dieu ne nous a pas abandonnés, puis qu'il y a de l'espoir, même encore en 2023... Ben, qu'on soit tellement joyeux puis content de le partager, ça va faire un impact autour de nous autres. Et c'est une bonne approche pour aller auprès des gens. Voyons ce psaume-là comme un psaume évangélistique, comme un bon esprit duquel on partage l'Éternel aux gens autour de nous autres, avec chant de louange puis tout ça, puis de dire, regarde, Dieu est bon, il permet ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens viennent à lui. Il veut que les gens soient sauvés, qu'ils connaissent et ainsi faire cette œuvre de grâce, qu'elle se répande, qu'elle se multiplie jusqu'aux extrémités de la terre. Savez-vous quoi? C'est une raison biblique pour laquelle on n'est pas encore enlevé, parce que Dieu n'a pas fini de sauver du monde. Qu'il n'y a pas encore, savez-vous, à un moment donné, il y en a un là, qui va accepter le Seigneur, là, puis ça va être le dernier, puis là, on va tout lever les feuilles. Mais ce n'est pas encore arrivé. Ça peut arriver sans l'instrumentalité humaine, ou plus ou moins, des fois il y en a plus ou moins d'être. Mais je veux dire, si Dieu nous a laissé nous, là, qu'on le chante, ce chant évangélistique, qu'on le chante, ce chant d'espoir, de restauration, pour les gens autour de nous autres. Amen.
Amen.
Amen. Merci Seigneur, on est content d'avoir des vérités des fois comme ça, juste simplement qui sont mises sous nos yeux du fait que, Seigneur, tu ne nous appelles pas à nous promener comme ça, puis avec des fardeaux sur les épaules, puis ah ben là, faut bien que j'évangélise, parce que c'est ça que ça fait un chrétien, ou faut bien que je fasse ça, puis... Non, Seigneur, tu as mis un cantique nouveau dans notre cœur, une louange à notre Dieu. Tu veux qu'on te célèbre, Seigneur, que notre vie soit une célébration, que notre vie, que la joie de l'Éternel soit notre force. Seigneur, tu as tout vaincu nos ennemis, tu as tout payé pour nos péchés. On est dans un amour tellement infini et grand, Seigneur. Qu'est-ce qu'on aurait à s'inquiéter, à devenir abattu, Seigneur, lorsqu'on a un si grand Dieu tellement merveilleux. Merci, Seigneur, que quand on ramène les yeux sur toi, oui, on est rayonnant de joie. Oui, Seigneur, ce cantique dans nos cœurs, on veut le rechanter. On veut, Seigneur, on veut te célébrer tous les jours de notre vie, Seigneur. Vive cette vie, cette vraie vie que tu nous as donnée, qui est celle qui a vraiment du sens, celle qui est vraiment bonne, Seigneur. Merci qu'on ne vit plus sous l'épée de Damoclès de la loi, puis un Dieu qui nous condamne, qui nous regarde en voyant le moindre petit faux pas qu'on peut voir. Tu nous as sortis de ça, Seigneur. C'est plus ça, notre vie. Tu nous as donné un amour pour toi. Tu nous as donné une motivation. Seigneur, on veut te suivre. On veut parler de toi. On veut faire toutes ces choses, Seigneur. On n'a plus besoin d'en être menacé. Merci pour ça, Seigneur. Merci que tu as fait toutes choses nouvelles. Merci pour la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. C'est en son nom qu'on prie toutes ces choses. Amen.